Stephen King aime les camions, Stephen King aime les stations-service, Stephen King a écrit Poids lourd et Chris Thompson l'a adapté. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au Vidéo Club de Castle Rock pour, j'espère, la dernière fois en duplex avec Chris. Bonjour.
Salut.
Ça va?
Bah écoute, toujours confiné, mais logiquement, ça devrait s'améliorer bientôt.
Oui, j'espère. Vivement.
J'espère tous. J'espère tous, surtout ne pas tous crever.
Aussi, fois, mais bon.
Une fois le déconfinement arrivé.
Au moins, on se fera moins chier. Donc, je propose qu'on y aille tout de suite. Comme d'habitude, nous allons spoiler la nouvelle, bon, qui fait 20 pages, et le film. Donc, si vous ne voulez rien en savoir, lisez et regardez-les avant. Et nous, on va y aller.
Eh ben, allons-y.
Alors, Poids lourd, ça nous raconte l'histoire d'une bande de gens qui sont coincés dans une station de service alors que les camions ont pris vie et menacent de les tuer. Voilà.
C'est clair, net et précis.
En même temps, ça fait 20 pages, hein. Donc, on va
voilà.
Pas s'attarder 10 minutes. Poids lourd, c'est une nouvelle qui s'appelle Trucks, donc en VO, qui a été publiée pour la première fois dans le magazine Cavalier en 1973. Avant d'être recueilli dans Danse Macabre, le premier recueil de nouvelles de King qui est sorti en VO en 1978 et en France en 1980. Le titre VO de ce recueil, c'est Skeleton Crew, d'ailleurs, je crois que je ne l'avais pas dit la dernière fois. Elle fait partie d'un certain nombre de récits de King autour de machines devenues tueuses, puisque c'est un thème qu'il réemploiera dans La Presseuse, par exemple, Christine, Cellulaire ou Roadmaster.
La Presseuse, c'est The Mangler ?
Ouais, c'est ça.
Ah bah on est pressé, tiens.
Oh, joli.
Oh.
De toute façon, pour l'instant, à part Roadmaster, on aura l'occasion de reparler de toutes ses œuvres.
Magnifique.
Mais voilà, le thème des machines qui se rebellent contre l'humanité, c'est quelque chose qui est quand même récurrent chez King.
Ça a même droit à une vanne dans un épisode de Simpson, dis donc.
Oui. Non, c'est dans un épisode de Family Guy, avec la lampe.
Ah, c'est Family Guy ?
Ouais.
Ah, il me semblait que c'était Simpson, d'accord.
Dans les Simpsons, il y a aussi King, mais pas autour de cette blague-là.
D'accord.
Via le film Maximum Overdrive, la nouvelle semble avoir acquis un bizarre statut culte, puisque le film Maximum Overdrive lui-même est devenu un peu culte. C'est assez étrange, parce que pour certains, il est culte en tant que nanar, mais j'ai l'impression qu'il y en a aussi qui en sont venus à le considérer comme culte au premier degré.
Ah,
c'est un phénomène
donc.
Dont on aura l'occasion de reparler quand on parlera de Maximum Overdrive. Mm-hmm. Mais c'est au point qu'il y a quand même une analyse de la nouvelle d'une vingtaine de pages qui est consacrée dans The Film of Stephen King, From Carrie to Secret Window. Donc voilà,
d'accord.
Entre Carrie et Fenêtre secrète, il y a Maximum
une
Overdrive.
Une analyse de Trucks, d'accord.
Voilà, c'est ça. Alors de Maximum Overdrive, hein, Trucks, il y a 5 lignes dessus. Parce que personne
d'accord.
N'en a rien à foutre de Trucks. J'ai pas trouvé d'avis de King lui-même sur cette nouvelle, donc on va tout de suite sauter à notre propre avis. Je t'écoute, Chris.
Eh ben, rappelez-vous ce qu'on avait dit pour Le Dentier Claqueur, le mien en tout cas, on verra si David dit ça mais le même, concernant Trucks, c'est que c'est une nouvelle pas désagréable à lire, qui clairement aurait pu être écrite par n'importe quel autre auteur talentueux. C'est une nouvelle qu'on oublie assez rapidement après lecture, et voilà. Mais disons que le postulat de base est intéressant, le fait que des camions se rebellent, enfin prennent vie, voilà, on sait pas trop comment, on sait pas trop pourquoi. C'est plutôt bienvenu d'ailleurs le fait qu'il n'y ait pas d'explication, je pense que ça aurait pu rendre le tout plus ridicule que ça ne pourrait l'être. Mais étant donné que c'est bien écrit, en fait, étrangement, ça ne sonne pas ridicule à la lecture.
Parce que comme on verra, l'explication dans le film n'est pas convaincante. Enfin, les semblants d'explication. Et ça l'est encore moins dans Maximum Overdrive, d'ailleurs. Donc autant ne rien dire plutôt que de dire n'importe quoi.
Mm.
Parce que c'est vrai que si en soi ça soulève plein de questions, pourquoi juste les camions? Donc autant ne pas du tout poser la question et essayer de la faire oublier, ça dure 20 pages. Donc,
c'est pour ça que c'est bienvenu qu'il n'y ait pas d'explication. Ouais. Ouais, on est d'accord. Mais sinon, les personnages sont. C'est même pas des archétypes quoi. Les personnages, chaque personnage pourrait être remplacé les uns avec les autres quoi, tellement ils sont un peu identiques dans leur comportement et de leur mentalité, mis à part le personnage de la jeune fille. Donc la jeune mariée qui est avec son petit ami, tous les autres, c'est du copier-coller, quoi.
Oui, bah en même temps, en 20 pages, il y a un nombre assez énorme de personnages. Il y a le mec avec sa petite amie, il y a le héros, il y a le camionneur, il y a le propriétaire de la station-service.
Ouais, mais d'accord, mais dans le Dentier Claqueur, les personnages avaient quand même des vrais traits, particularités.
Bah c'était un peu plus long et il y en avait quand même moins au final. Mm. Donc c'est pour ça, hein, je pense que les personnages sont inexistants, ils n'ont pas pour but d'exister.
Ça doit être ça.
D'ailleurs, on parlait des problèmes du sexisme chez King, là c'est quand même clairement apparent, hein, le personnage de la fille...
Qui ne sert à rien.
Qui ne sert à rien à part à pleurer, bon.
C'est ça.
Après, voilà, elle est quand même efficace, vu qu'elle est courte, le thème fonctionne à peu près... Même si on aurait limite envie de le voir plus développé. C'est-à-dire, moi, ce qui m'aurait intéressé, c'est pas vraiment ce face-à-face, enfin, cette confrontation à la station-service. Ça aurait été plutôt le monde d'après, celui qui est juste très rapidement évoqué, avec les humains qui se sont planqués dans les espaces naturels où les camions ne peuvent pas arriver et qui essaient de survivre pendant que les camions, peu à peu, arrivent à conquérir la Terre. Je trouve que ça aurait été un truc bien plus intéressant que ce début d'épidémie, entre guillemets, d'invasion. Mmh. Qui finalement est assez OSEF.
Oui, totalement, oui. À la fin de la nouvelle fonctionne bien, par contre, je trouve. Il y a une fin vraiment apocalyptique, mais pas apocalyptique grandiose. C'est vraiment, c'est genre les personnages vraiment se rendent compte que bah ils sont foutus en fait.
Oui, c'est ça.
C'est vraiment une fin. C'est pas doux amer, mais un petit peu quand même, quoi.
Ouais, elle est même clairement négative, la fin. Mmh. On peut imaginer que c'est des plans sur la comète et qu'il y a quelque chose qui va venir les sauver, mais l'état de dépression dans lequel ils sont à la fin est plutôt crédible.
Voilà.
Le souci, c'est que comme on s'en fiche des persos, on a du mal à être vraiment touché.
C'est ça. Après, voilà, c'est quand même une nouvelle bien écrite et qui tu passes pas un mauvais moment à la lire.
Oui, c'est ça. De toute façon, ça va très vite, donc on déconseille pas, mais c'est loin d'être parmi ce que King a écrit de plus mémorable.
Voilà.
Et je comprends pas bien pourquoi on a voulu l'adapter deux fois.
Oui, par contre, il y a pas vraiment de raison. Enfin, puis après, il y a pas vraiment de raison aussi. Après tout, c'est des camions qui veulent détruire le monde. Tu peux donner une ampleur un petit peu apocalyptique et grandiose à la scène. Le problème, c'est que les deux adaptations reprennent le postulat d'une bande de connards qui sont coincés dans une station essence. Et ça, c'est anticlimatique, quoi.
Et les deux adaptations ont un budget miséreux aussi.
Voilà.
Ça aide pas.
Parce que sinon, avec un postulat comme ça, tu peux faire une espèce de Mad Max horrifique. Hein.
Oui, carrément, oui, c'est pas
voilà.
Faux. Ouais.
Tu vois, ça peut fonctionner. C'est juste que les deux adaptations ont décidé d'être fidèles en ayant un budget pas top. Donc, bah oui, bah, forcément, c'est ridicule, quoi.
Moi, je pense qu'on peut passer au film.
Ouais, on peut.
Allez, c'est parti. Short story by Stephen King. Trimark Pictures invites you to buckle up. You are now entering a town called Lunar.
Morning.
First time in this part of the cosmos.
Looking for flying saucers?
Why would anyone want to live in a place like this?
Dad, it's too quiet here.
Where something strange is going on.
Electricity is out for most areas. It'll be at least 24 hours before we can get to you.
Can't get nothing on the CB.
Phones are out.
What's that?
Is there anyone driving?
Trucks don't drive by themselves.
A mysterious force has taken hold.
These trucks appear to have an intelligence of talking to each other.
They're up to something.
And the traffic is way out of control.
Look out!
Look out! Dad, what's going on?
Get away from my son! Now!
A thriller without breaks. Starring Timothy Busfield.
On trouve très peu d'informations sur la production de ce film parce que tout le monde semble s'en ficher totalement, même dans les articles que j'ai vus, comme j'ai dit, qui sont parfois assez complets concernant Trucks, la nouvelle, et concernant Maximum Overdrive. Le film, non, clairement, c'est pas considéré comme un truc prioritaire. Et je peux pas totalement leur en vouloir.
Non, effectivement.
Alors, Chris Thompson, c'est une réalisatrice néo-zélandaise qui est morte en 2015, d'ailleurs, à 70 ans, donc elle était déjà plutôt... Elle avait déjà une belle carrière derrière elle, à l'époque de Trucks, mais elle a rien de bien mémorable à son actif, malgré qu'elle ait commencé en 1969. En 89, elle a réalisé The Delinquent, un film avec Kylie Minogue, mais wow. J'ai l'impression que c'est le truc le plus remarquable de sa carrière. Après, Kylie Minogue, elle est très bien dans Holy Motors de Leo Szarax, hein, donc c'est peut-être un très bon film.
C'est vrai.
Donc voilà, c'est beaucoup de notes que j'ai trouvées sur internet qui ne se sont pas particulièrement renseignées semblent croire que Chris Thompson est un réalisateur. Il y a effectivement un réalisateur de télévision appelé Chris Thompson et qui est aussi mort en 2015.
Ah.
Donc si ça se trouve, c'est IMDB qui confond. Bon, dans les deux cas, c'est pas des grands artistes.
Hein. Non, voilà, c'est ça.
Le scénariste, c'est Brian Taggart, qui était actif lui aussi depuis un bon moment, et visiblement ce film, ce serait son dernier travail, même s'il n'est mort que l'année dernière. Tout le
c'est
monde
triste.
Est mort. Il a scénarisé pas mal de films de genre, dont Terreur à l'hôpital central, Poltergeist 3, La Malédiction 4, ainsi que plusieurs épisodes de films et de séries télé. Bon, encore une fois, il n'y a rien de particulièrement exceptionnel dans sa filmographie. C'est plus un tâcheron qu'autre chose, j'ai l'impression.
Ah bah c'est pas très gentil.
Non mais tâcheron, au genre, il exécute des tâches, quoi, pas au genre...
Ah.
Ouais, non, il exécute des tâches pour lesquelles il est payé, mais je pense pas qu'il ait pris beaucoup d'initiatives dans sa carrière.
D'accord.
À part peut-être pour une série qui s'appelle V, la bataille finale, qu'apparemment il a vraiment géré de fond en comble, mais bon... Et pareil sur le casting, hein, on est sur du pur casting de télévision, donc je sais pas si toi t'en connaissais certains, mais moi pas du tout. Je vais donner une petite liste quand même, avec quelques faits marquants pour certains d'entre eux. Le rôle de Ray est joué par Timothy Busfield, très actif donc comme acteur et réalisateur sur des séries. Il a joué dans Nos plus belles années, il a un petit rôle dans le film Piège en eau trouble, dans la série À la Maison Blanche, il joue Danny Contkanon. Et dans Designated Survivor, que
j'ai vu
plutôt bien dans mon souvenir.
J'ai bien aimé la première saison, et après ça devient chiant.
D'accord.
Voilà, de toute façon ça a été annulé après deux saisons.
Ok.
Je crois. Bref.
Dans le rôle de Hope, on a Brenda Back, qui a eu une carrière un peu moins remplie, mais tout de même respectable. On a pu la voir, elle, dans Hot Shots 2, et dans Piège à grande vitesse. Bon... Visiblement,
d'accord.
Il y a une thématique cigale commune aux acteurs de ce casting. L'acteur Aidan Devine, qui joue Bob, on le retrouvera dans La Cadillac de Dolan. Mm. Celui qui joue Tad, Roman Podoroy, il a eu un rôle secondaire assez important dans K-19, Le Piège des Profondeurs. Qui n'est pas un film dont je suis fanatique, mais qui est pas mal quand même.
C'est le film où Harrison Ford parle en russe.
Ouais, c'est un des défauts, ouais.
C'est ça.
Et l'acteur qui a eu la plus grosse carrière, c'est Jay Brazzo, qui joue Jack dans le film. Ses engagements les plus longs, ça semblait plutôt en tant que doubleur, à part dans la série Cold Squad. Cold Squad, c'est une sorte de cold case, en fait. Et d'ailleurs, il y a eu un procès pour plagiat, parce que Cold Squad est antérieur, et donc ils ont fait un procès à Cold Case pour plagiat.
D'accord.
Et en tant que doubleur, il a travaillé sur Sonic, Sabrina, G.I. Joe, Robocop, que des chefs-d'œuvre de la série d'animation, en somme.
Extraordinaire.
Et enfin, celui qui joue Logan, Brendan Fletcher, il joue Dickens, le voisin handicapé dans Thailand.
Et la chienne de Ginger Force.
Aussi.
Du coup.
Et il a un rôle récurrent, celui de Stanley Dover dans Arrow, mais comme je n'ai pas vu Arrow, je ne sais pas qui c'est.
Putain, mais cette référence au Twitter français, quoi.
C'est ça.
Au YouTube français.
Enfin, ancien YouTube, puisque là, ça ne m'en fait plus.
Oui.
C'est très dommage.
Exactement.
Si jamais elle tombe là-dessus, ce dont je doute, tu nous manques, Ginger.
ça serait cool.
Ce serait drôle.
Ça serait cool. C'était très bien,
oui.
L'adaptation.
C'était excellent. Même ses autres émissions, ses pavés dans la mare, étaient très bons.
Mm.
Elle avait fait des adaptations sur King, d'ailleurs.
Oui. Deux épisodes.
Ouais. Le directeur de la photographie, c'est Robert Draper, qui a une biographie très élogieuse sur IMDb, qu'il présente comme un directeur de la photo novateur, qui a fait plein de projets révolutionnaires, et cette biographie est rédigée par un certain Rob Draper, je sais pas qui ça peut être.
D'accord.
Non mais la blague, c'est qu'il a rédigé sa propre notice sur IMDb.
Ah, d'accord. Voilà. Ah merde.
T'avais pas noté.
J'avais pas tilté. Pas mal.
Il a aussi travaillé sur quelques épisodes des Contes de la Crypte et de la nouvelle série Creep Show, donc on aura peut-être l'occasion d'en reparler de celle-là, et sur Halloween 5 aussi. Et c'est lui qui a été directeur de la photographie sur Darkside, les Contes de la Nuit Noire, qui est dans notre chapeau.
D'accord.
Le compositeur, c'est Michael Richard Ploman, tout débutant à l'époque, qui a travaillé sur pas mal de téléfilms de Noël, sur pas mal de séries d'animation. C'est lui qui a fait aussi la série, la BO de Splinter Cell, et d'un documentaire qui s'appelle Hitler's Last Stand. Je pouvais pas m'empêcher de le mentionner.
Oh là là.
Et j'ai pensé un peu au professeur Rico, puisqu'il a fait aussi la musique d'un jeu de requins qui s'appelle Jaws Unleashed.
D'accord.
Sur PS2.
Et oui, c'est une adaptation du coup des Dents de la Mer où tu joues le requin, et donc où ton but est de bouffer des gens.
Et c'est bien.
C'est fun, voilà. C'est une espèce de... Enfin, mais vraiment, c'est un GTA-like où tu joues le requin dans les Dents de la Mer.
D'accord, ouais, le concept est fun.
Donc c'est assez fun à jouer, et voilà.
Et donc si Rico passe par ici, on attend avec impatience un épisode sur les requins dans les jeux vidéo.
Voilà.
Bon, pour revenir aux musiques de Ploman, que ce soit sur Trucks ou que ce soit en général, parce que j'ai essayé d'écouter un peu son travail en global, je trouve que ça manque vraiment de personnalité. En fait, il sait s'adapter à plusieurs styles, à plusieurs genres, mais pas parce qu'il adapte son style au genre nécessaire, mais parce que j'ai l'impression qu'il a pas vraiment de style et qu'il fait le truc cliché du genre en question. C'est peut-être un peu méchant, hein, je suis désolé, mais j'ai vraiment l'impression d'écouter de la musique au maître, comme s'il composait et qu'il appliquait sur des films un peu aléatoirement.
Mmh.
Voilà, c'est un peu efficace, mais c'est quand même un peu nul.
Et ouais, et encore, t'es gentil.
Ouais, non, c'est vraiment pas très bien.
Voilà.
Le film a actuellement 31% sur Rotten Tomatoes et 2,6 étoiles sur Allociné.
31%?
Alors, pas 31% de fraîcheur, hein, c'est encore une fois le pourcentage de général. La majorité des critiques sont mauvaises, signalant un film qui n'a même pas le mérite d'être fun, au contraire de Maximum Overdrive. En fait, j'ai l'impression que tous ceux qui critiquent ce film sont un peu admirateurs de Maximum Overdrive, ce qui me donne pas non plus tellement envie de leur faire confiance quand même. Sans vouloir être négatif.
Celui-là est sorti avant ou après Maximum Overdrive? Il est sorti après.
Après, il est sorti en 1997, celui-là. Maximum Overdrive, c'est 83 ou 84.
86.
Ah, à quelques années près, ça va.
Non mais oui, c'est pour être précis.
La porte, à l'intérieur, nous ne risquons rien.
Merci. Qui es-tu?
Logan Porter, le fils de Ray.
Qu'est-ce qu'il leur prend? Mais qu'est-ce qu'ils veulent?
Je ne sais pas.
Ils veulent attirer notre attention.
Quoi?
Ils nous envoient un message.
Quoi?
Vous avez une meilleure idée?
J'espère qu'ils ne savent pas lire.
J'ai toujours su que le monde industriel finirait dans le chaos. C'est notre faute. Nous avons pillé cette planète sans gérer ses ressources.
Ces camions la géreraient mieux?
Peut-être pas plus mal.
Bon, globalement, c'est tout ce qu'il y a à dire de la production de cette œuvre dont personne n'a rien à faire. King n'en a jamais parlé d'ailleurs. Et nous allons pouvoir passer à nos avis. Chris, je t'écoute.
Alors, Trucks, les camions de l'enfer. Quand j'ai lancé le film, moi je m'attendais à pourquoi pas passer un bon moment, pourquoi pas être surpris par une petite série B qui vaut le coup d'œil, qui vaut le détour à voir avec des amis et tout. Finalement, je me suis pas ennuyé à fond. Toi, je sais que tu t'es pas mal ennuyé au bout d'un moment. Moi, ça va, ça a été agréable. Enfin, agréable, c'est un bien grand mot, hein, faut pas non plus abuser. Mais c'est quand même pas très bien, hein, on va pas se leurrer. Il y a quelques scènes qui sortent vraiment du lot. Il y a une scène de meurtre d'un pauvre postier qui n'en a pas demandé tant et qui pourtant subit un sort dramatique. Cette scène est extraordinaire. Il y a une scène de crime à la hache qui est magnifique aussi. Et en dehors de ça, le film souffre de son format téléfilm. C'est-à-dire que la majorité des morts, bah, ne sont pas montrés, se déroulent hors cadre. Alors que, encore une fois, t'es avec des gros camions, tu pourrais faire des trucs impressionnants, quoi. Mais non, pas du tout. Le format série télé et le fait qu'on essaye de viser quand même un public un petit peu général fait que, bah, on sent qu'il y a de la retenue.
Ouais, déjà, il y a ça, on sent cette retenue. Après, c'est très très long pour ce que ça veut raconter. Surtout que les personnages sont pas particulièrement intéressants, en fait, ils sont tous ultra clichés, donc tu vas avoir l'ancien hippie, adepte des théories du complot, t'as l'ancien militaire, t'as l'ado rebelle, enfin les personnages sont vraiment tous ultra clichés, ce qui fait qu'ils se développent jamais vraiment et qu'on en a pas grand chose à faire. Le casting est pas non plus brillant, faut quand même pas se mentir, hein, donc ils aident pas.
C'est pour ça que c'est dommage de ne pas les voir mourir de manière extraordinaire.
Ouais, ça aurait été le seul truc qui aurait pu être divertissant, mais comme tu dis, il y a que deux scènes qui sortent du lot. Et encore, pour celle du facteur, pour être clair, le facteur en fait est tué par un camion jouet, donc un petit jouet d'une dizaine de centimètres qui le tue. Déjà, ça sort de nulle part, parce que c'est comment ça se passe, la race camion, c'est comme les Pokémon, même les jouets, enfin, c'est pas clair. Et surtout, il a l'air en plastoc, ce camion, quoi. Comment il tue quelqu'un ?
Comment tu peux mourir de ça ? Je veux dire, au bout d'un moment, bah, je sais pas, tu te penches, tu le ramasses, et puis voilà, tu peux rien faire.
Ouais, ou tu l'écrases. Tu peux l'écraser, le machin.
Oui, enfin, même, tu le portes, tu le mets dans une poubelle, quoi, et puis voilà, il bouge plus.
Voilà, donc c'est un peu rigolo comme scène, hein, on est d'accord.
Oui, parce
mais
que t'as pas décrit, mais du coup, alors, en plus, ils ont collé des espèces de bruits de petits chiens au camion. Il fait des espèces de bruits de chihuahua enragés. Alors, bah, du coup, ça fait pas très peur, quoi. Et donc le camion lui rentre plusieurs fois dans la cheville, du coup le facteur tombe, et le camion fait des allers-retours sur sa tête. Et donc il meurt comme ça. Voilà, c'est bien triste.
Ouais, alors la sortie du camion d'ailleurs, qui se propulse hors du magasin de jouets en pétant une vitre, on dirait Cujo dans Cujo à la fin.
Ah oui.
Sauf que bon, il y a une différence entre un Saint-Bernard qui a la rage et un camion.
Ah, un camion de la taille de 10 cm de haut. Et encore 10 cm, je suis peut-être gentil.
Ouais, il est vraiment pas haut, il fait la taille des chaussures du mec, hein. Il est vraiment pas haut.
Mais par contre, ça permet l'un des passages les plus gores du film, avec on voit le camion, quand on le filme à hauteur de jouet, et qu'on voit des espèces de bouts de cervelle dessus, c'est assez dégueulasse.
Ouais, bah l'autre scène un peu gore, c'est l'autre scène un peu originale du film, en fait, c'est le meurtre à la hache. Donc je te laisse nous la raconter, cette scène.
Bah alors, c'est deux scientifiques qui sont envoyés sur le terrain, parce que, attention, dans le film, il y a une explication. Explication comme quoi il y aurait du gaz qui aurait été transporté en train, il me semble, c'est ça ? Non, par camion, en camion-citerne, qui aurait été transporté, qui se serait échappé, qui aurait donné vie au camion. Bon alors, autant dire que c'est bidon comme tout, hein, comme explication, mais bon... Je sais pas, apparemment, il fallait une explication.
Ouais.
Voilà.
À la limite, ça, tu peux peut-être te dire, en étant tolérant, que c'est une rumeur, et comme il y en a plusieurs qui circulent, que tu sais pas exactement ce qu'est la vérité, mais qui viennent vérifier dans le doute, mais effectivement, c'est bidon.
Voilà. Et à un moment, l'un des personnages donc sort du camion dans lequel ils sont. Il met sa petite combinaison hazmat, là. Et la deuxième combinaison restante, la machine... À côté de la combinaison prend vie, gonfle la combinaison prend vie, chope une hache et se met à découper les deux mecs, enfin à buter les deux mecs à la hache. Alors, au-delà du fait que du coup, mais d'où ça sort, pourquoi ? Voilà, si on met ça de côté, la scène est vraiment cool en fait. Parce que
oui.
L'effet est bien, parce que vraiment la combinaison qui se gonfle, c'est plutôt bien fait, la scène est plutôt violente. Alors que tout le reste du film nous a pas habitués à ça, donc ça surprend, ça réveille en fait. Ce passage-là réveille, vraiment, te remet un coup de boost. Alors que tu commençais un petit peu à t'ennuyer.
Ce qui est décevant du coup après, c'est que là, t'as eu deux exemples de camions un peu atypiques, et on joue sur leurs particularités, le camion jouet et le camion avec la machine, avec la combinaison. Mais après, t'auras juste des camions banals qui seront tous traités à peu près de la même manière, t'auras plus d'éclat d'originalité comme ça.
C'est ça. Si, après, il y a quand même une autre scène que moi j'ai trouvé sympa, c'est les deux gamins qui... Enfin, la station essence, il y a une espèce de petit motel, et donc t'as les deux gamins qui sont dans la partie motel, alors que tous les autres sont dans l'autre partie de la station. Et ils décident de rejoindre le reste du groupe, et donc ils passent par une espèce de conduit. Et ils sont coincés, parce que l'un, une espèce de gros camion Ben, met des détritus à un côté du conduit, bloquant l'accès aux deux gamins, et un autre camion, en fait, met son pot d'échappement juste au niveau de l'autre entrée du tuyau et se met à balancer du gaz d'échappement en fait dans le but d'étouffer les gamins. Et j'ai trouvé que cette scène là était pas trop mal faite.
Ouais, j'ai trouvé ça trop long. En plus, vraiment, les gamins, surtout la gamine, je la trouvais insupportable. Elle reprend plus ou moins le rôle du seul personnage féminin de la nouvelle, donc elle est assez insupportable en fait.
Ouais, mais je la trouve quand même plus battante, entre guillemets, que le personnage féminin de la nouvelle, qui, elle, ne fait vraiment rien.
Au début, elle est un peu plus battante, mais après, elle passe en mode full victime, quand même.
Ouais, je sais pas, à la fin, quand même, elle décide de suivre son père et tout. Elle est quand même assez dans l'action.
Ouais.
Contrairement, justement, à la jeune mariée qui, elle...
À la fin, je suis peut-être un peu dur, t'as raison.
Non, moi, j'ai trouvé que cette scène-là fonctionnait pas trop mal.
Moi, j'ai pas été fan, pour le coup. Surtout, je trouve qu'elle pose une grosse incohérence parce que, après, il laisse survivre les gamins en disant que c'est pour faire une faveur aux humains pour qu'après, ils viennent les remplir d'essence. Mais qu'est-ce que les camions ont besoin de faire une faveur aux humains? Ils les écrasent s'ils obéissent pas, donc ils ont pas besoin de leur faire de faveur, quoi.
Oui, ça, on s'en fout, c'est vrai.
Alors, je me suis posé une question à un moment. Le couple de mariés qui est en vacances et la femme se plaint, tu sais, d'être dans un bled paumé. Le mari, tu te rappelles, où est-ce qu'il lui dit qu'ils vont aller la fois d'après pour la calmer?
En Provence.
Ouais.
Oui.
Genre, la Provence, c'est beaucoup mieux.
Bah écoute, peut-être que pour eux, oui. On ne sait pas.
S'il y a un Provençal dans nos éditeurs qui nous disent les mérites de la Provence, hein, parce que moi, c'est pas une région qui m'a l'air particulièrement faux-folle.
Alors après, peut-être qu'il parle de la Provence parce qu'on a été obligé de voir le film en VF parce qu'on ne l'a pas trouvé en VO.
Aussi, oui.
Peut-être que dans la VO, il dit une autre destination un petit peu mieux, entre guillemets.
Ouais, enfin, ils auraient pu adapter dans ce cas-là.
Bah, tu sais, les mecs, à mon avis, quand tu t'occupes de la traduction de Trucks, les camions de l'enfer, bon, tu t'en cognes un peu, je pense.
Ok, il y a Cannes et la Côte d'Azur en Provence. Je suis nul en géo, je plaçais ça dans le Massif Central. Donc bon, ça jouait dans mon opinion. Mais bon, enfin, c'est quand même...
Y a pas une région aux US qui s'appelle Provence? Je ne sais pas, moi.
Peut-être, vu qu'ils ont repris tous les noms.
Voilà,
après, il y a quelques passages aussi. En fait, toute la critique sur l'ère industrielle, qui, je la trouve assez maladroite dans le film.
Ouais, complètement.
Parce que, en fait, elle est transmise soit par le camionneur, qui à un moment va voir les camions en disant « Je suis ton maître, tu dois m'obéir », soit par le néo-hippie, mais comme j'ai l'impression qu'on se fout un peu de sa gueule au hippie, je sais pas ce qu'on est censé prendre au premier degré, ce qu'on est censé prendre de manière un peu ironique.
Bah, et puis en plus, c'est un néo-hippie qu'on te montre un petit peu complotiste sur les bords, hein, donc t'as pas forcément envie de le croire.
Ouais, voilà, en plus.
Parce que le mec, il est en mode complot, il y a des extraterrestres sur Terre depuis toujours, Roswell, tout ça, bon.
Donc voilà, on a tendance à prendre avec méfiance tout ce qu'il nous dit, alors que je pense que le message qu'il est censé faire passer sur les machines, on devrait le prendre au premier degré, mais ça marche pas tellement, quoi.
Bah, en plus, c'est peut-être le personnage le moins détestable de la bande. Hein. Ça fait partie des personnages qui sont pas détestables.
Oui, clairement, c'est le plus supportable du lot.
Qui se sacrifie, c'est tellement triste.
Oui, inutilement, comme la plupart d'ailleurs.
Comme la plupart des personnages. Non, mais vraiment, c'est mort hors champ, c'est quand même assez... un peu nul.
Bah
quoi.
Oui, parce que c'est la seule raison qu'on avait regardé le film, quoi, les morts.
Ah oui, tu t'attends à avoir des explosions de corps sanguinolentes, quoi, et puis... Oh là là, mais la jeune mariée qui s'en va au loin, et le camion qui la shoot et tu vois rien, quoi. En plus, la scène est ridicule, tu la vois marcher au loin sur sa portion de route, t'as le camion qui arrive et pouf, ça coupe au moment de l'impact.
C'est le manque de budget empêche d'avoir une réalisation qui a vraiment le moindre truc très remarquable aussi.
Là, je pense, le manque de budget et la volonté de rester tout public un minimum. Hein.
Oui, aussi.
Même si du coup... Bah, la mort du facteur et des deux mecs à la hache, bah du coup ça fait tâche, hein, avec une volonté de rester tout public.
Ouais, c'est ça, on sait pas vraiment comment ils voulaient vendre ça.
C'est très bizarre.
Ni pourquoi ils voulaient vendre ça.
Parce qu'il y a du mort, hein, parce que j'ai compté. Hein. le body count, il s'élève quand même à 12 victimes hein, dans tout le film.
Ah oui, parce qu'il y a énormément de monde dans le film. Il y a énormément de personnages.
J'ai quelque chose à vous dire.
Quoi ?
C'est qu'il y a un puissant radiotélescope dans cette base militaire.
Et alors ?
C'est inhabituel. Je ne vois pas le rapport avec les militaires, mais la NASA a un programme nommé SETI de recherche sur l'intelligence extraterrestre.
Le Congrès a stoppé le financement de ce projet, non ?
Oui, après seulement une petite année.
Oui, alors ? Quoi ?
Un groupe de scientifiques a réuni des fonds privés. Ils ont racheté à la NASA le matériel et les ordinateurs et continuent les recherches. Ça s'appelle le projet Phoenix.
Vous pensez que c'est un rapport avec ça ?
Non, pas vraiment. Et si j'avais tort ?
Attends, bon, en vrai, sur 12 morts, t'en as 2. Tu sais pas pourquoi elles sont là. Donc le facteur est un vieux Gus à la fin du film qui se fait électrocuter tout seul dans son coin.
C'est totalement incompréhensible. Le facteur, à la limite, on peut se dire, c'est le début de l'invasion, mais le vieux Gus, c'est totalement incompréhensible.
Bah, le mec est là, il répare des câbles électriques et bah, il meurt.
J'ai l'impression que le monteur ne savait pas où mettre ça.
C'est ça, mais on l'a jamais vu avant, ni puis après on n'en parle plus, quoi. Possible que du coup, c'est soit prévu pour être genre la toute première scène du film, c'est possible. Genre, tu sais, le début de l'invasion, quelque chose comme ça.
Ouais, peut-être. Clairement, ça paraît pas à sa place, en tout cas.
C'est très bizarre, cette scène-là, on sait pas d'où elle sort. Puis en plus, elle est longue, hein. Ça dure. Ouais.
Bah, comme beaucoup de trucs, hein, on sent qu'ils ont eu du mal à la remplir, leur heure et demie.
Oui, parce que c'est vrai que ça dure que 1h30.
Ouais, c'est déjà ça. Moi, je vois rien à ajouter.
Non, je pense qu'on peut passer à la scène. À une scène. Je ne sais pas comment qualifier ça.
Camion sur la route, camion ça fait prout prout prout. Camion sur la route, camion ça fait prout prout prout.
Alors, pour la scène entre guillemets représentative et pour le comparatif.
Guillemets représentatif.
Ouais, bah écoute. Hein.
Ah, c'est beau, comment
tu parles.
Nous
avons choisi la fin du téléfilm et la fin de la nouvelle. En fait, c'est le seul moment où il y a vraiment des trucs réellement en commun qui soient exploitables, qu'on puisse constater activement. C'est quand on se rend compte que l'apocalypse est peut-être encore plus forte que ce à quoi on s'attendait.
Mais je ne peux pas dormir. La fille est assoupie. Elle est recroquevillée dans un coin, une nappe en guise d'oreiller. Et le sommeil n'a pas suffi à détendre son visage. De toute éternité, l'épouse abandonnée par le combattant a eu ce visage. Je ne vais pas tarder à la réveiller. Le soir tombe et le cuistot est dehors depuis près de 5 heures. Il en arrive toujours. Je regarde par la vitre défoncée et je vois le ruban des phares qui s'étire sur plus d'un kilomètre, telle une guirlande scintillant dans l'obscurité qui vient. La queue doit s'étendre jusqu'à l'autoroute, peut-être plus loin. Il va falloir que la fille prenne son tour. Je vais lui montrer comment on fait. Peut-être qu'elle ne voudra pas, mais si elle veut vivre, il faudra bien. Vous voulez devenir leur esclave ? Avait dit le barman. C'est ce qui vous attend. Vous voulez passer le reste de votre vie à changer des filtres à huile à chaque fois qu'un de ces camions vous klaxonnera ? Peut-être pourrions-nous fuir. Étant donné la façon dont ils se sont rangés les uns derrière les autres, il serait facile d'atteindre le fossé d'écoulement, maintenant. Courir à travers champs, puis pendre par les marécages, où ces mastodontes s'enliseraient. Ensuite, l'homme des cavernes. Réapprendre à dessiner au charbon de bois. Ceci est un arbre, et voici un semi-remorque, Mac écrasant un chasseur. Non, même pas. Nous vivons dans un monde de béton. Même les enfants jouent sur le béton. Quant aux champs, aux marais et aux forêts épaisses, il y a des tanks, des half-tracks, des véhicules équipés de maseurs, de radars. Et, petit à petit, ils pourront façonner le monde qu'ils désirent. Je les vois déjà convoyant le sable par milliers pour combler les marais d'Okfenok. Je vois les bulldozers aplanissant les parcs nationaux et les terres en friche, faisant de la planète une unique et gigantesque plaine. Ensuite, la horde des poids lourds pourra déferler. Mais ce ne sont que des machines. Quoi qu'il leur soit arrivé, quel que soit le degré de conscience que nous leur avons permis d'acquérir, une chose est certaine, ils ne peuvent pas se reproduire. Dans 50 ou 60 ans, ils ne seront plus que d'impuissantes adrouilles, d'immobiles carcasses que l'homme, à nouveau libre, pourra lapider et couvrir de crachats. Mais, en fermant les yeux, j'imagine maintenant les chaînes de Détroit, de Dearborn, de Youngstown et de Mackinac, d'où sortent de nouveaux camions, assemblés par les ouvriers qui n'auront même pas la solution de leur rendre leur bleu de travail. Quand la tâche les aura tués, on les remplacera. Le barman chancelle un peu, maintenant. C'est qu'il n'est plus tout jeune, il faut que je réveille la fille. À l'est, deux avions tracent un sillon argenté dans le ciel obscur. Je voudrais croire qu'il y a quelqu'un aux commandes.
Suspense. Et maintenant, la fin du téléfilm.
Au ralenti. Ça faisait Merci. Longtemps.
Ça faisait longtemps, effectivement. C'est bien de faire des piqûres de rappel.
On a réussi. On a réussi. Abby. C'est moi, Logan. Je suis fier de toi, Pa. Merci, mon vieux. Tu nous as sauvés.
Restez à notre écoute. Je répète, restez à notre écoute.
Pour cette scène, je me permets de prendre la parole en premier. Bah, le point commun, hein, c'est vraiment cette idée des avions qui semblent être possédés. Enfin, on le suppose dans les nouvelles et on en a la confirmation dans le film.
Dans le film, sauf que dans le film, du coup, c'est un hélico.
Ouais, c'est ça.
Parce qu'en fait, du coup, on comprend que ce n'est pas que les camions qui sont... qui ont pris possession d'une espèce de vie, c'est que c'est possiblement tous les véhicules de la Terre.
Ouais, c'est ça. Mais alors, encore une fois, ça pose plein de questions sur pourquoi les moyens de locomotion, comment ça fonctionne exactement, parce que tous les moyens de locomotion n'ont pas exactement le même fonctionnement. Et inversement, il y a plein de trucs qui ne sont pas des moyens de locomotion, mais qui vont avoir des fonctionnements mécaniques proches.
Oui.
Donc qu'est-ce qui fait qu'ils décident que quelque chose marche ou pas ?
Bah écoute, c'est magique.
Ouais, je pense qu'il faut le prendre comme ça. Je me pose trop de questions.
Je pense qu'il n'y a même pas besoin de chercher plus. Hein. Il y a... Dans la nouvelle, King n'a pas donné d'explication, donc à la limite, on prend la fin telle quelle. Quoi. C'est vrai que dans le film, ils ont opté pour une explication. Bon. Enfin, ils essayent de trouver une explication, parce que c'est vrai que normalement, si dans le film, on t'explique que c'est un gaz qui a été libéré dans la région, bah normalement, un hélico qui n'est pas de la région ne devrait pas être touché. Enfin, c'est étrange.
Ouais.
Tu vois, normalement, ça devrait être que dans ce microcosme de la région dans laquelle se passe le film.
Surtout que pour le coup, il y a beaucoup de bulletins TV qui rappellent que ça n'a visiblement touché que la région.
Bah oui. Et t'en as plusieurs dans le film, il y a plusieurs moments.
Ce qui me laisse un peu sceptique aussi, c'est la dernière phrase du film, bah, qui est justement entendu quelque chose que diffuse le camion. Enfin, la voix de l'hélico, la radio de l'hélico, qui dit « Restez à notre écoute », mais d'un ton qui pourrait presque sonner rassurant. Donc c'est quoi l'intention ? Je comprends pas bien.
Ah, genre l'hélico serait gentil ?
Bah, je me demande si c'est pas ça, mais je comprends pas bien l'idée. Après, moi, j'ai rien contre un film d'hélico contre des avions, hein, mais bon... Enfin, d'hélico contre des camions, mais bon...
Ah, tu vas donner une idée à Asylum, là.
Ouais, il y a des risques. Ou à Michael Bay.
Non, Michael Bay.
Je comprends pas cette dernière phrase, en fait.
Ou alors l'hélico se veut rassurant pour que les gens montent dedans.
Ouais, mais là, ils sont déjà dedans. Ils sont déjà en plein ciel à ce stade.
Oui, mais genre, ça serait un message qui se répète.
Ouais, peut-être.
Moi, je m'attendais vraiment à ce que l'une des dernières images, ça soit l'hélico qui, tout d'un coup, se penche et laisse tomber tout le monde qui est monté à bord. Ça aurait été très rigolo.
Oui, ça oui. Après, ils sont au-dessus de l'eau, hein, donc techniquement, sauter, c'est probablement la meilleure décision qu'ils ont à faire si l'hélico est vraiment en train de partir en vrille.
Après, ça dépend à quelle hauteur, hein.
Oui, bon, écoute, faut prendre un peu de risque de temps en temps.
Parce que bon, si t'es à plusieurs centaines de mètres, l'eau, c'est un peu comme le béton. Hein.
Non, mais en fait, finalement, la nouvelle, comme le film, s'arrête, j'ai l'impression, au moment où ce serait devenu le plus intéressant. C'est-à-dire au moment où les humains pensent avoir perdu et doivent s'organiser pour vivre malgré ça.
Mmh. Et en fait, c'est un petit peu le côté intéressant, entre guillemets, du récit, c'est que c'est un film pré-apocalypse.
Oui.
Alors que d'habitude, à chaque fois que tu vois des récits, c'est toujours des récits post-apo, donc l'apocalypse a déjà eu lieu et tu vois les humains qui survivent.
Bah, ou alors tu as l'apocalypse et le post-apo.
Ouais, voilà, des récits pendant l'apocalypse, ça arrive, mais c'est vrai que des récits qui se passent avant, au tout début, aux prémices, c'est quand même assez rare.
Ouais, bah t'as Cellulaire.
Hmm, pareil, ouais, Cellulaire.
Qui fait ça et qui le fait bien mieux, mais...
Enfin, oui, enfin, quand on parlera du film, on verra que...
Je ne l'ai pas vu, j'ai cette chance pour le moment.
Pour un moment, oui. Oh là là, le film catastrophique. Mais bon, c'est pas grave.
Moi, pour l'instant, j'ai rien à ajouter, donc je pense qu'on peut passer à la notation.
Ouais, je pense qu'on a fait le tour, on peut passer au classement.
C'est parti.
Alors, du coup, classement des récits écrits, du coup. Nous avons actuellement 16 titres dans notre liste. Les trois premiers étant Cimetière, suivi de La Part des Ténèbres, puis de Cujo. Et en fin de classement, nous avons 14e Les Enfants du Maïs, 15e Le Dentier Claqueur, et en 16e L'Année du Loup-Garou. Et nous sommes là, du coup, pour classer Poids Lourd, Trucks en VO, qui pour moi va sans hésiter entre Le Dentier Claqueur et Les Enfants du Maïs. Il prendrait du coup la 15e place maintenant.
Oui, ça me va.
Oui, ça te va, pas d'objection, pas de débat.
Non, bah, comme on l'a dit, c'est plus anonyme que les Enfants du Maïs, donc c'est en dessous, et c'est un peu plus efficace que Le Dentier Claqueur, donc voilà. Au-dessus, donc je trouve pas qu'il y a tergiversé là, tellement là-dessus.
Ça, disons que ça, pour donner une raison, ça a l'efficacité que Le Dentier Claqueur n'a pas forcément, mais ça ne possède pas les personnages un peu plus intéressants présents dans Les Enfants du Maïs.
Ouais, et la progression des Enfants du Maïs, c'est mieux aussi, avec tout le côté enquête, découverte du village.
Avec une montée en tension de la menace et tout, voilà. Ouais. Voilà. Du coup, pour moi, 15e place entre Le Dentier Claqueur et Les Enfants du Maïs.
Très bien, et donc pour les films, nous avons cette fois-ci 21 œuvres au classement pour le moment, il y en a plus. En premier, il y a Carrie de Brian de Palma, suivi de Chambre 1408 de Michael Avstrom et de Cujo de Lewis Stieg. Et aux trois dernières places, Les Démons du Maïs de Donald P. Borcher, Jesse de Mike Flanagan et Le Fléau de Mick Garris. Et moi, très sincèrement, je le mettrais juste au-dessus des Démons du Maïs de Borcher.
Ah !
Mais
bah, je suis
juste grâce à la scène de...
De la hache.
De la hache.
De l'attaque à la hache. Et du facteur aussi, qui est quand même rigolote.
Oui.
Bah écoute, je suis d'accord avec toi. En fait, j'ai réagi en étant surpris, parce que je m'attendais vraiment à ce que tu le mettes sous les maïs de Borcher. Mais écoute, bah du coup, ça me va.
Ça joue vraiment à pas grand-chose. Hein. Clairement pas en dessous de Jesse, que j'ai détesté.
Non, mais écoute, ce classement me va. Bah écoute, on se sera pas battu du tout au niveau des places.
Non. Bon bah voilà, du coup les deux dernières émissions, là, la session d'enregistrement qu'on a fait aujourd'hui, c'était pas la meilleure, hein, soyons honnêtes. Les Démons du Maïs 4 et Trucks 18e et 19e place de classement actuel.
Non.
Et nous allons passer au tirage au sort pour la prochaine fois.
Ah, le tirage.
Donc je tire d'abord mon bout de papier et après on passera au tien. J'en ai un.
J'ai peur.
Ah bah on va remonter.
Ah.
Dead Zone de David Cronenberg.
Ah, enfin un bon film.
Ah oui là.
Et c'est à moi de tirer du coup.
Pour toi, ouais, tu me dis stop.
Bien écoute, je te dis stop.
Alors, qu'est-ce que tu as pris ? Donc tu as pioché Détour mortel de Michael Salomon. Adapté de la nouvelle Grand Chauffeur, et Michael Salomon, à moins que ce ne soit un homonyme, c'est celui qui a réalisé Le Salem dont on a déjà parlé.
Et Détour mortel, ce n'est pas la série de films horrifiques plutôt bourrins qui doit compter 4-5 épisodes maintenant, d'il y a quelques années. Ça n'a rien à voir, je pense.
Non, ça n'a absolument aucun rapport. La nouvelle Grand Chauffeur, dans mon souvenir, bah, c'est dans le recueil Nuit Noire, Étoile Morte, et comme la majorité des nouvelles de Nuit Noire, Étoile Morte, je la trouve un peu longuette pour ce que c'est. Mais elle reste agréable.
D'accord. Je ne l'ai pas lu, hein, donc...
Voilà, donc dans deux semaines, nous nous retrouvons pour Dead Zone de David Cronenberg, puis pour Détour mortel de Michael Salomon. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux.
@cinémaarchiviste pour toi, @augrédesbulles pour moi. Également sur Facebook pour toi.
Ouais, l'archiviste du cinéma. Vous pouvez également nous retrouver dans d'autres podcasts, dans la guerre des claps consacrée au cinéma en général et casse sur table consacrée aux nouveautés comics, manga, BD. D'ici que cet épisode sorte, avec un peu de chance, ils auront déjà repris puisqu'ils se sont arrêtés pendant le confinement.
Voilà.
Vous pouvez aussi me retrouver sur YouTube, la chaîne L'Archiviste du Cinéma. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit coucou. Et sur Discord, on mettra le lien dans la description. Et pour finir, je vous dis à dans deux semaines. Et n'oubliez pas que le Vidéoclub de Castle Rock est ouvert
7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
Salut.
Salut.